colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je vais évoquer le cas de la cavalerie sur une période infiniment plus longue que celle que vient d'évoquer le colonel Goya. Et évidemment, parler d'un sujet aussi vaste sur une période aussi étendue pose un certain nombre de difficultés. Alors, vous voudrez bien m'excuser si j'ai recours à des propos parfois schématiques et si les caricatures sont un peu forcées. Si vous le voulez bien, je partirai de deux constatations. La première, c'est que c'est celle de la supériorité opérationnelle des cavaleries nomades, en gros, du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle de notre ère. C'est-à-dire 20 siècles de supériorité opérationnelle. Ce n'est tout de même pas rien. Et la deuxième constatation, c'est que en Occident, c'est-à-dire en Europe méditerranéenne et occidentale, l'infanterie reste et est considérée et est effectivement la reine des batailles des origines à nos jours, c'est-à-dire pendant une période encore plus longue que la précédente. Si on constate, si on prend en compte les tâches traditionnellement dévolues aux unités de cavalerie, le renseignement, la couverture, le combat, au sens général du terme, et l'exploitation, on constate que dans ces quatre domaines, la supériorité des cavaleries nomades pendant la période que j'ai évoquée est très significative et assez indiscutable. Mais dans le même temps, on constate que dans le combat tel que le menaient les Occidentaux sédentaires, eh bien, l'infanterie occupe une place tout à fait centrale et c'est elle qui assure l'essentiel de la tâche et en particulier de la fonction combat. Alors, il y a là une espèce de contradiction, une sorte de paradoxe que j'explique pour ma part par le fait que il y a deux approches du combat, et en particulier au niveau des cavaleries. Les cavaleristes épiques ont compris tout très vite et de façon continue tout l'intérêt du combat à distance, alors que les cavaleries occidentales se rallient au mythe du choc. Et j'emploie à dessein le terme de mythe, parce que le choc, en fait, n'est pas une véritable réalité, comme nous allons le voir. Alors, quelques mots sur la supériorité des cavaleries nomades. Dans le domaine du renseignement, tout d'abord. Alors, je ne peux pas, là, sur ce sujet, ne pas évoquer l'extraordinaire mission qui va être confiée à Subotai, par Gengis Khan, d'explorer, découvrir un théâtre d'opération au-delà du Caucase, en direction de l'Ouest. Ça se passe en 1221, et Subotai débouche du Caucase, voit son débouché à la sortie du Caucase, gêné par une coalition assez hétéroclite, faite de forces des potentats locaux, et articulée essentiellement autour d'un notre groupe nomade, les Coumans. Subotai, qui ne dispose que de relativement peu de moyens, on lui a confié deux tumens, c'est-à-dire 20 000 cavaliers, et on lui a quand même donné la mission pendant 2 ans. Et il vient de ravager la Géorgie, il a un butin, et il décide de le donner aux Coumans pour les détacher de cette coalition. Les Coumans se satisfont de ce cadeau, et quitte le champ de bataille. Dès lors, les forces résiduelles sont rapidement liquidées, et les Mongols, dans leur tradition, se lancent à la poursuite des Coumans, les rattrapent à Astrakhan, les battent et récupèrent leur butin. À partir de là, ils vont se séparer. Djébé, l'adjoint de Subotai, va foncer vers la boucle du Don, et Subotai, lui, se dirige vers la mer Noire. Et là a lieu une rencontre qui va porter des fruits ultérieurs dont la mémoire littéraire conserve le souvenir. Il va rencontrer la Sérénissime République par le biais de ses comptoirs, et entre grands fauves, on se reconnaît, ils vont s'apprécier mutuellement, les Vénitiens vont très bien comprendre qu'ils n'ont pas affaire à un vulgaire pillard menant un raid occasionnel et sans lendemain, et Subotaille apprécie très vite tout l'intérêt informatif qu'il pourra recueillir d'un accord avec les Vénitiens. L'accord se fait sur cette base, donc les Vénitiens vont renseigner les Mongols sur la situation politique, économique, religieuse, géographique aussi, de l'Europe que les Mongols ne connaissent absolument pas. Et en échange, les Mongols leur garantissent de régler le sort des comptoirs génois de la mer Noire. Chose faite assez rapidement, Subotai franchit le détroit de Kerch sur la glace et va détruire le comptoir de Soldaya avant de retrouver Djébé dans la boucle du Don. De là, ils franchissent le Dniepr et s'installent sur le Dniestre, à partir duquel ils vont rayonner pratiquement jusqu'à l'Oder et dans les Balkans, et constituer ainsi un formidable dossier d'objectifs, d'un théâtre d'opération qui va de la Volga aux limites de l'Europe occidentale. Ils vont rassembler des données sur la géographie, ils vont nouer des contacts, recruter des agents dormants, se renseigner sur l'état des lieux, la situation politique, l'état des forces relatives. Bref, un dossier d'objectifs tout à fait remarquable. Et l'exploitation de ce dossier d'objectifs n'aura lieu que beaucoup plus tard, puisque la conquête de l'Europe démarrera en 1236 jusqu'en 1242. On voit là aussi un point très intéressant, surtout pour l'époque et extrêmement moderne, un souci de recueil de connaissances et d'anticipation qui n'a pas d'exemple équivalent à ce moment. Et d'ailleurs, on peut même se demander si aujourd'hui on fait beaucoup mieux. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est celui de la conception de la couverture. Alors c'est un point extrêmement important pour les tacticiens, parce que derrière cette notion de couverture, il y a en fait la notion de sûreté qui est en question. Les Mongols, on est en 1241, les Mongols ont détruit les principautés russes, ils se sont emparés de l'Ukraine, et ils arrivent en Europe centrale, où ils ont parfaitement identifié que l'adversaire majeur est hongrois. Ils s'installent dans la région de Przemyśl et ils s'apprêtent à marcher sur Budapest. Le problème tactique qui est posé là, c'est comment faire pour s'engager massivement en direction de Budapest en assurant la sûreté large d'un dispositif qui est susceptible d'être menacé au nord et à l'est. Alors ils vont constituer un groupement de forces pour le nord qui va commencer par s'emparer de Lublin puis de Sandomir et qui ensuite va escadronner entre Cracovie et la Mazovie pour tenter de localiser une menace sur leur dispositif qui va de Przemyśl vers Budapest. Ils vont la localiser à Legnitz, l'anéantir dans un combat sur lequel je ne m'appesantis pas. Et ensuite, ils vont mener une manœuvre de déception très intéressante entre l'Oder et la Bohême, où, sans jamais se laisser mettre en prise, ils vont dissuader les éventuelles velléités chrétiennes de venir à l'aide des Hongrois. Dans le même temps, Subotai contourne les Carpates et débouche d'Hermannstadt en direction de la Tisza. Le fait tout à fait remarquable et extraordinaire, c'est qu'entre Hermannstadt et Liegnitz, il y a près de 800 km. Et le débouché de Subotai d'Hermannstadt a lieu le lendemain de la bataille de Liegnitz. Alors, probablement, y a-t-il là l'effet d'un hasard favorable. Mais il y a aussi, évidemment, une technique de coordination, une maîtrise du commandement et du champ opérationnel très vaste qui est absolument extraordinaire. Après son débouché, il remonte au grand galop Latisa pour rejoindre Batu sur les Carpates et ils vont déboucher ensemble du col de Vérec en direction de Budapest. La conception de cette manœuvre de couverture est absolument sans exemple dans les annales. Et aujourd'hui encore, on est stupéfait par l'ampleur de la vision de ces cavaliers qui embrassaient le théâtre d'opération dans toute son étendue et dans toute son ampleur. Et quand on le compare aux manœuvres qu'on ne peut pas s'empêcher de qualifier d'étriquées de celles du sédentaire occidental à la même époque, et même plus tard, il faut attendre la manœuvre napoléonienne pour trouver des élans d'une ampleur comparable, on reste quand même assez pantois. Alors, dans le domaine du combat, la question est aussi très intéressante et elle est très centrale, parce que c'est probablement ce qui fonde leur conception générale d'opération et leur vision de la gestion de l'espace. Ce qui est très intéressant, c'est que leur technique équestre, d'une part, leur pratique culturelle et sociale, leur conception de l'espace de manœuvre et leur maîtrise technique d'un engin assez simple qui apparaît sur ce transparent, c'est l'arc à double cambrure, va leur donner une façon d'aborder le combat centré sur le combat à distance. Avec cet arc, dont la puissance est considérable, James Chambers, qui a écrit un bouquin tout à fait passionnant sur les cavaliers mongols, estime que la force nécessaire pour le bander est double de celle du longbow gallois, qui pourtant fera d'ailleurs des ravages sur la cavalerie française un peu plus tard. Il faut 60 kilos. Ça veut dire qu'il faut une force musculaire tout à fait intéressante. Mais la contrepartie, c'est que ça leur permet d'engager le combat à plus de 200 mètres. Et cette portée dans l'efficacité, associée à une maîtrise équestre très remarquable, leur permet de conserver leur liberté d'action en permanence dans les séquences de combat de l'époque. Chose que le sédentaire a beaucoup de mal à réaliser. Et cette maîtrise va leur donner dans la bataille une supériorité marquée. Alors, pour illustrer ce point, je prendrai l'exemple de la bataille de Manzikert, on est à la fin du XIe siècle, et elle met aux prises les Byzantins avec les Turcs Seljoukides, mais qui sont de la même culture que l'ensemble de ces cavaleries stépiques, uniques, turques, mongoles. L'affaire de Manzikert est provoquée par la pression qu'exercent les Seljoukides sur l'Anatolie byzantine après la chute de Bagdad en 1055. Les Byzantins, tiraillés par cette menace seljoukide, se rallie à la formule consistant à reprendre le contrôle des places fortes qui se trouvent aux franges orientales de l'Anatolie. Ils arrivent assez facilement d'ailleurs à ce résultat et Manzikert, qui était passé sous contrôle turc, revient dans le contrôle byzantin avant la bataille. On est en août 1076. Jusqu'au moment où une reconnaissance de ravitaillement byzantine tombe dans une embuscade turque, se fait massacrer et les quelques survivants rallient Manzikert et préviennent l'empereur de ce que l'armée turque est là. Le Romain IV Diogène décide de l'affronter et de provoquer la bataille rangée. Il sort de Manzikert en août 71 dans un format tout à fait classique, la cavalerie lourde est au centre, encadrée par deux ailes, avec un deuxième échelon. L'empereur est au premier échelon, au centre du dispositif. Les Turcs, l'idée de manœuvre des Byzantins est d'accrocher les Turcs dans un combat direct, de percer leur dispositif au centre et d'accéder à la destruction de la force turque. Ces derniers, eux, choisissent un dispositif en croissant. Et leur chef, Alpaslan, qui est le lion héroïque, lui n'est pas au premier rang. Il se réserve derrière et il va se contenter de commander pendant l'événement. Les Byzantins entament l'action selon leurs prévisions et les Turcs se dérobent. Ils se dérobent et ils reviennent perpétuellement à la charge, si je puis dire, mais à la charge à distance. Et grâce à leur archerie, ils ébranlent, ils délitent progressivement les ailes des Grecs. Si bien que la journée avance, les charges se répètent, l'insuccès est au rendez-vous, et l'empereur finit par comprendre la vanité de ses efforts et se dit « j'y arriverai pas avant la tombée de la nuit, il n'est pas question de rester en terrain ouvert dans ces conditions, il faut se replier en direction des murs de Manzikert ». Alors évidemment, la manœuvre rétrograde sous le feu de l'ennemi est toujours une manœuvre délicate, d'autant plus que commence à se dessiner un début d'encerclement et l'aile droite byzantine commence à être très sérieusement menacée. Et le deuxième échelon byzantin panique, tourne bride, et au moment où il aurait sans doute été le plus indispensable, il disparaît du champ de bataille. Peut-être y a-t-il dans cette attitude quelques rivalités entre le chef du deuxième échelon et l'empereur qui, paraît-il, ne pouvait pas s'entendre. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où le deuxième échelon quitte le champ de bataille alors que le premier est toujours au contact et accroché, le sort de l'armée byzantine est scellé, l'empereur est fait prisonnier et l'Anatolie est perdue. Le point sur lequel il faut bien insister, c'est que la destruction, la percée, l'abordage de la force byzantine par les Turcs ne se fait qu'après qu'elle ait été ébranlée, délitée par le feu de l'archerie. En ce qui concerne l'exploitation, on a l'embarras du choix. Je me contenterai d'évoquer très très rapidement celle de l'exploitation par les Mongols après la destruction des forces du Kharezem entre Lamou et Sirdaria. Exploitation qui va se dérouler dans deux directions. Une première vers le sud de la Caspienne en poursuivant le chat du Kharezem qui va agoniser dans une petite île du sud de la Caspienne. Et une deuxième qui va porter les Mongols jusqu'à l'Indus pour détruire les restes de l'armée Kharezem qui était commandée par le fils du Shah. Ces deux opérations, assez divergentes, mais après avoir détruit l'adversaire, elles ne présentent pas d'inconvénients stratégiques, se développent sur plus de 1000 km à chaque fois. Là encore, on est absolument pantois devant l'ampleur des réalisations opérationnelles des Mongols. Simultanément et dans le même temps, l'occidental, lui, impose une logique d'infanterie, de destruction et de combat à mort face à face. Cette logique s'accompagne de l'adoption d'une manœuvre axiale. Et dans le cadre de cette manœuvre axiale, le facteur de concentration, le principe de concentration, occupe une place absolument centrale et déséquilibre en quelque sorte la vision des choses chez les Occidentaux. Elle débouche sur la recherche obstinée de la bataille décisive dont on pense, et corroborée par les faits, qu'elle peut avoir un effet décisif et trancher le débat en une journée. Alors les grandes batailles de l'Antiquité, Leuctre, Cannes, Zama, Farsale, sont toutes très révélatrices de cette situation. D'autant plus facile à obtenir que le théâtre d'opération est souvent exigu, les capacités de dérobade ne sont pas infinies. Et dans ce contexte, le rôle de l'infanterie va prendre sa position tout à fait centrale. Bon, sans doute, les compagnons d'Alexandre, les Bucellari de Bélisaire apportent-ils un léger correctif à mon propos, mais pour autant, ces cavaleries sont toujours employées dans un style de combat assez infanterie, si je puis dire. Et l'idée, au fond, du coin qui s'enfonce dans le dispositif adverse, qui le disloque et qui le fait éclater, est présente aussi dans l'action de cavalerie. D'autant plus que, dès la fin de l'Empire romain, la cavalerie lourde commence à apparaître, cette cavalerie cataphractaire va donner naissance, un peu plus tard, à la chevalerie médiévale qui occupera une place centrale dans les dispositifs militaires de cette époque. Cette cavalerie profite d'une innovation qui est pourtant très ancienne, mais qui apparaît en Europe vers le 8e siècle, c'est celle de l'étrier. On pense aujourd'hui que l'étrier est une invention unique qui remonterait au 3e siècle avant Jésus-Christ. Les archéologues ont retrouvé dans des tombes uniques des objets servant très probablement d'étrier. Donc il y avait aussi dans ces cavaleries stépiques une avance technique très intéressante en matière de stabilité du cavalier sur sa monture. Il est d'ailleurs assez amusant, quand on regarde l'iconographie, de voir que le cavalier occidental monte très long, alors que les cavaliers des steppes avaient une attitude quasiment de jockey d'aujourd'hui. Bon, ceci pour la petite histoire équestre. Alors, cette cavalerie, sans pour autant négliger l'archerie d'ailleurs, va adopter comme principal style de manœuvre celui de la charge. Le problème est donc la charge avec l'idée du choc, la masse du chevalier armé, lourd, enfonce le dispositif. Le problème, c'est que le choc physique n'existe pas. Il faut être bien convaincu de cela. Ardan Dupic, au XIXe siècle, en a fait la démonstration, et on a encore beaucoup d'idées fausses à ce sujet. Le choc est psychologique. Et lorsque cet effet psychologique ne fonctionne pas, eh bien la charge n'a aucun effet. C'est ce qui se passe à Courtrai en 1304, quand la chevalerie française n'arrive pas à entamer la solidité des milices flamandes qui tiennent leur position sans trembler et qui font un massacre du chevalier français. C'est le cas à Morgartern en 1314, lorsque l'infanterie habsbourgeoise se fait tailler en pièces par les Suisses. C'est le cas à Crécy et à Azincourt, dont il n'est pas utile de rappeler les protagonistes, où le même phénomène se produit. C'est le cas à Granson et Morat à la fin du XVe siècle, quand la cavalerie du Grand-Duc d'Occident se fait littéralement massacrer par la phalange suisse. Donc, il faut être bien convaincu de cela. Le choc, la masse du cavalier et de son cheval n'a d'effet que psychologique. Pour autant, il peut être réel. Mais si l'infanterie tient son rang, eh bien, il n'y a pas de choc. Et donc, la charge n'a aucun effet. Je voudrais simplement, pour tenter de vous convaincre de cette idée, vous inviter à mesurer l'effet de l'ouverture brutale d'un parapluie sur la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. Et vous comprendrez que une formation d'infanterie solide qui tient son rang est absolument inébranlable par la cavalerie. Alors, au stade où nous en sommes, un changement intervient et la poudre à canon va contraindre les Occidentaux au combat à distance. Jusque-là, leur culture, leur éthique, leur sens de l'honneur même, les portaient au combat à mort, face à face, à courte distance. Il y a des réflexions très intéressantes énoncées par Maurice dans un petit recueil d'anthropologie militaire très savoureux sur la solidité des hommes à cheveux blonds et leur aptitude à affronter le combat en ligne, à courte distance, et leur sentiment qu'ils sont les seuls à pouvoir affronter la mort sans trembler. À partir de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, l'usage de la poudre et son irruption à la fois dans le domaine de l'artillerie mais dans les formations d'infanterie va contraindre le soldat occidental à réviser complètement sa position et à adopter le combat à distance. Alors ça va être assez difficile et besogneux et comporter un certain nombre d'étapes. Le premier à trouver la bonne formule et le bon dosage, c'est Gonzague di Cordoba. Elle dit, elle, grande capitaine, qui, à la bataille de Cérignol en 1502, trouve la bonne formule et brise les charges de la cavalerie française de Louis XII. Prosper di Colonna, un peu plus tard, à la bataille de la Bicoque, réitère et le tertio espagnol est né. Le tertio, c'est une formation compacte, massive, combinant l'arquebuserie et la pique, qui regroupe entre 1000 et 3000 combattants, qui a une efficacité très grande dans le combat défensif et qui va contraindre la cavalerie à la pratique de la caracole. Alors cette pratique de la caracole consiste à approcher du dispositif d'infanterie dans une formation aussi fournie que possible, au galop rassemblé, et à utiliser les armes de poing de l'époque pour prendre à partie la formation d'infanterie. Inutile de vous dire que le rendement du procédé était assez médiocre. Alors, pour voir les choses évoluer, il faut attendre le début du XVIIe siècle et l'irruption de la brigade suédoise. Gustave Adolphe, fondant son expérience d'ailleurs sur celle à la fois des Huguenots français pendant les guerres de religion et des Hollandais, va articuler le tertio, un petit peu d'ailleurs comme Marius l'avait fait de la Légion quelques 15 siècles auparavant. Il va articuler le tertio en 3 ou 4 bataillons de formation mixte entre arquebuse et piquier. Il va standardiser et alléger son artillerie de sorte que on va commencer à accéder à un début de manœuvre de l'artillerie sur le champ de bataille. Il va débarrasser sa cavalerie de la cuirasse et lui redonner la capacité de charger au galop sabre au clair. Ça lui coûtera d'ailleurs la vie à Lutzen. Mais on voit bien qu'on repart là dans un processus de fractionnement et de dilution qui est une des constantes d'ailleurs des évolutions tactiques à l'époque moderne et contemporaine. L'évolution suivante, c'est celle de l'adoption du fusil et de la baïonnette à douille qui, à effectif constant, va à peu près doubler la puissance de feu de l'infanterie. Alors dans ces conditions, on comprend bien que la cavalerie en est réduite à deux grands procédés au combat. Le premier, c'est l'exploitation d'une opportunité et d'une faute de l'infanterie qu'elle peut surprendre à flagrant délit de manœuvre grâce à sa mobilité tactique. Ça, c'est l'exemple type, c'est Seydlitz à Rosbach. 40 escadrons prussiens surprennent l'infanterie française en flagrant délit de mouvement et la pulvérisent. Donc, premier procédé, on exploite une faute de l'infanterie. Deuxième procédé, on exploite l'ébranlement de l'infanterie par le feu de sa propre infanterie et de l'artillerie. Et ceci est d'autant plus possible et efficace que l'artillerie va s'alléger et accéder véritablement à la capacité de manœuvre avec le système Gribeauval. Et la bataille napoléonienne la conclusion de la bataille se fait après que les dispositifs aient été ébranlés et à ce moment-là, la cavalerie peut les traiter. Et à ce moment-là, le choc psychologique est efficace. C'est-à-dire que sur une formation en cours de délitement, la charge retrouve son efficacité. Lorsque ce n'est pas le cas, eh bien ça ne marche pas. Et à l'époque napoléonienne, c'est pareil. À la bataille des pyramides, la cavalerie mamelouk, qui a atteint un niveau technique de cavalerie tout à fait remarquable, et Bonaparte d'ailleurs s'en fait l'écho à plusieurs reprises, eh bien, la cavalerie mamelouk reste impuissante devant la solidité des carrés français, et l'affaire est entendue. C'est la même chose à Waterloo. À Waterloo, la cavalerie française, en dépit d'efforts absolument désespérés, n'arrive pas à ébranler la cohésion et la solidité des carrés anglais. C'est trop tôt d'une heure, dira Napoléon, et la bataille est perdue. Et donc, une fois de plus, au pinacle de son évolution et de sa puissance et de sa reconnaissance, la cavalerie voit son efficacité limitée dans la mesure où le dispositif fantassin n'a pas été ébranlé. Alors, à ce point où j'en suis arrivé, la suite va être une longue agonie. Le problème, c'est que la taille de la zone de mort et sa densité augmentent considérablement au cours du XIXe siècle. La percussion centrale, grâce à la capsule à fulminate, on abandonne la balle cylindrique pour la balle sphérique pour la balle cylindrique, la rotation de celle-ci à l'intérieur du canon, l'apparition au mi-temps du 19e des armes d'épaule à chargement par la culasse, l'apparition des armes à répétition au cours de la guerre de sécession américaine, les améliorations de poudre, bref, tout cela fait que la zone de mort augmente en intensité et en étendue. Elle est en gros multipliée par 5. Dans ces conditions, et sur un terrain de plus en plus machiné, l'organisation du terrain qui va exploser littéralement et dominer la situation tactique au cours de la Première Guerre mondiale est déjà très perceptible au cours de la guerre de sécession puis de la guerre russo-japonaise, va interdire le parcours du champ de bataille à la cavalerie sans dommage. La guerre franco-prussienne confirmera ces éléments que la guerre de sécession avait déjà annoncé. On va tenter de restaurer le rôle et l'intérêt et l'enthousiasme aussi des cavaliers en les lançant dans des raids sur les arrières de l'adversaire. Ces raids, pour spectaculaires qu'ils furent, n'eurent pas une très grande utilité et leur principal résultat sera d'épuiser les forces de la cavalerie, comme par exemple celui de la cavalerie sudiste avant la bataille de Gettysburg. La cavalerie sudiste se lance dans un grand raid qui l'emmène jusqu'à Carlisle au nord et elle arrive la veille de la bataille de Gettysburg au centre de mon petit schéma, complètement épuisée la veille de la bataille. Ça sera la même chose pour la cavalerie de Mitchenko qui, avant Mukden, tente de détruire le nœud ferroviaire d'Inkeu de façon à gêner la montée en puissance et les ravitaillements japonais. Ça sera un échec parce que l'unité de cavalerie n'a pas la puissance nécessaire pour atteindre son objectif. Peut-être a-t-on raté une ultime occasion d'exploitation lorsque le 13 septembre 1914, le corps de Kono, par la velléité de son chef peut-être, ne se lancera pas dans la brèche entre Craon et Berry-au-Bac, alors que ses avant-postes ont atteint le camp de Sisson. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que la cause était entendue et que le rôle de la cavalerie était terminé. La puissance de feu a tué le cheval de guerre et elle ne laisse place qu'à l'animal de traction. Il faut bien voir que dans les sociétés du début du XXe siècle en Europe, encore extrêmement rurales, une étude récente, très intéressante sur la culture équestre à l'époque, souligne qu'il y avait en France, à la veille de la guerre de 14, un cheval pour 10 personnes. 40 millions de Français, près de 4 millions de chevaux. On comprend que dans ces conditions, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à son début tout au moins, et avant que le moteur à explosion n'ait définitivement chassé l'animal du champ opérationnel, il y a encore de nombreux chevaux dans les armées de l'époque. Près de 350 000 dans l'armée française, près de 600 000 dans les armées de l'Axe qui rentrent en Russie en 1941. on est encore largement dans l'hypomobilité. Ce que l'on comprend moins bien, c'est que 5 divisions de cavalerie et 4 brigades du même nom soient encore inscrites à l'ordre de bataille français en mai 1940. Le cheval a toujours suscité des passions tout à fait frénétiques et l'esprit cavalier, élégant mélange d'ardeur, de furie, d'esprit de sacrifice, d'audace, de coup d'œil, fait toujours rêver et sans doute concrétise-t-il encore pas mal des vertus que l'on est en droit d'attendre du chef au combat. Le problème, c'est qu'en Occident, le cavalier s'est souvent laissé aller au mépris de la ribaudaille, à l'adoption du mythe du choc, il y croit encore, et à un relatif dédain de la technique. Si bien que, lorsque les passions sont en phase avec les réalités, elles peuvent soulever des montagnes, mais lorsqu'elles ne le sont plus, il faut beaucoup s'en méfier. Thank you.